Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, patience, Ngalula Mbombo.
Au sommaire de ce journal, arrivé hier dimanche à Kinshasa du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix va échanger avec toutes les couches sociales du pays sur les processus de la paix. L'évêque catholique de Butembo Beni demande aux parlementaires du Nord Kivu d'être des porte-parole de leur région auprès des décideurs. Il a dit jeudi lors d'une rencontre avec les caucus des sénateurs originaires du Nord Kivu en vacances parlementaires. L'invité de ce journal est le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale. Il revient sur les enjeux et les priorités sur lesquelles portera la session budgétaire au sein des deux chambres du Parlement. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, est arrivé ce dimanche soir à Kinshasa pour une visite officielle. Le but de sa mission est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et différentes organisations de la société civile sur les processus de paix en RDC. Jean-Pierre Lacroix a mis l'accent sur les processus de Luanda, lesquels, selon lui, doivent aboutir à une paix durable en RDC. Pour cette autre personnalité de l'ONU, l'implication de la MONUSCO dans l'accord de Luanda est un travail complémentaire au processus de désengagement de la mission onusienne en RDC. Jean-Pierre Lacroix l'a dit au micro d'Askin Zigbia Tayoro à sa descente d'avion à l'aéroport d'Ndjili.
Je voudrais bien sûr d'abord écouter mes interlocuteurs congolais, aussi plus en détail bien sûr mes collègues de la MONUSCO. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, des efforts diplomatiques, notamment avec le processus de Luanda. Il y a eu déjà des résultats issus de ce processus de dialogue. Maintenant, il faut voir comment faire en sorte que ces premiers résultats, notamment l'accord qui avait été signé le 30 juillet, puissent vraiment donner tout leur potentiel, déboucher sur davantage de stabilité et des progrès vers une paix durable.
D'un côté, la MONUSCO est appelée à s'impliquer dans le processus de Luanda. Et de l'autre côté, la MONUSCO doit préparer son retrait progressif et durable, comme on a toujours dit. Comment les Nations Unies comptent s'y prendre?
Je pense que ce n'est pas incompatible, c'est même en réalité complémentaire, puisqu'il nous importe de faire le maximum, y compris avec les moyens de la MONUSCO, pour soutenir le processus de paix, les efforts de paix, et en même temps examiner la manière dont nous pourrions continuer à conduire ce désengagement. Si nous avons des progrès dans les efforts de paix, bien entendu, ce sera un élément important à prendre en compte dans ce processus.
L'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni demande aux élus du Nord Kivu d'être des vrais ambassadeurs de la population auprès des instances de prise de décision. Monseigneur Sikulu Paluku Melchisedek l'a dit jeudi à Butembo au cours d'un échange avec les caucus des sénateurs originaires du Nord Kivu en vacances parlementaires dans la région de Beni-Butembo. L'évêque de Butembo Beni revient ici sur son message dans cette déclaration à la presse locale dont un extrait a été choisi par Guylaine Kassassia.
Partant de toute la situation que nous vivons dans le Nord Kivu, que dans leurs différents parlements, ils puissent être le porte-parole de la situation réelle, de nos misères et de nos attentes surtout, que c'est la première fois que je le vois tous ensemble. Notre force se trouve dans cette cohésion, même s'ils proviennent de plusieurs regroupements ou partis politiques, ça serait bon qu'ils aillent avec un unique cahier de charges, en s'occupant surtout des problèmes de la sécurité et le développement. Le développement, c'est aujourd'hui le nouveau nom de la paix. On a des routes qui ont commencé, on voit que ça s'arrête. Est-ce qu'on peut savoir les causes? Il y a des protocoles qui ont été signés entre les pays voisins, par exemple nous. On a l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité. Où se trouve le blocage? Qu'ils travaillent à l'unisson, tel qu'ils ont fait le tour de la province, qu'ils ne soient pas là comme des gens qui amènent des rapports, mais comme des médiateurs. Donc quelqu'un qui souffre de la même situation et qui parle, non pas comme quelqu'un qui a attendu parler de ça, qui ne déçoivent pas ceux qui les ont élus.
Dans la ville de Beni, au Nord Kivu toujours, au moins 16 civils ont été assassinés par des inconnus depuis le début de cette année. C'est la coordination urbaine de la société civile qui l'a dit samedi dernier à Beni après la découverte du corps sans vie d'une fille d'une vingtaine d'années au quartier Matongé. Face à la persistance de la criminalité dans la ville, Kadekule Viumbira, un élu provincial de Beni, estime qu'il est grand temps que les autorités militaires contrôlent systématiquement les armes des patrouilleurs, étant donné que la plupart des bandits qui opèrent dans la ville portent souvent des tenues semblables à celles des militaires et des policiers. Cet élu du peuple l'a dit à la presse samedi dernier à Beni au lendemain d'un autre assassinat, celui d'un jeune taximen moto la nuit de jeudi à vendredi. Suivez le député Kadé Koulé Vuhumbira dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Compte tenu de l'insécurité grandissante dans la ville, il est grand temps que les services de sécurité fassent un contrôle systématique des armes qu'ils donnent à la police et au FRDC pour savoir si l'arme a été utilisée ou non. Il y a une manière de contrôler une arme, ça s'appelle contrôle balistique, parce que ceux qui sèment l'insécurité sont souvent habillés en tenue de la police, mais on ne sait réellement s'il s'agit de la police. Et c'est lorsque les patrouilleurs retournent au niveau de l'état-major, y a-t-il vraiment un contrôle? Connaître une arme qui a été utilisée, c'est très très facile. Mais lorsque le gouvernement donne des armes à la police ou aux militaires, il doit aussi leur donner à manger. Dans les cas contraires, ils vont se servir de leurs armes pour chercher à survivre. Et ainsi, au lieu de protéger la population, ils commencent à la tracasser.
Restons dans la ville de Beni cette fois pour parler de ces voix qui s'élèvent pour dénoncer la présence des filles mineures dont l'âge varie entre 13 et 16 ans dans les camps militaires qui longent la route de l'aéroport national de Mavivi. Certains parents de quartier Nzuma Matembo et Mavivi s'inquiètent de cette situation et affirment craindre que leurs enfants ne perdent leur année scolaire. Du côté de l'armée, son porte-parole indique que les responsabilités sont partagées. Le colonel Mac Azukai affirme qu'en cas des plaintes officielles, la hiérarchie militaire diligentera immédiatement une enquête. Marc Marofimbo pour des précisions.
Certains parents rencontrés au quartier Nzuma à Beni affirment qu'ils sont préoccupés par cette situation. Ils déclarent que leurs enfants de moins de 18 ans passent des nuits dans les camps militaires situés le long de la route de l'aéroport national de Mavivi. Témoignage.
Ma fille passe nuit là-bas, dans ces camps, même celle de mon voisin ici derrière. Elle passe des fois la journée et dorme dans ces camps. Ce sont des enfants de 15 ans, elles n'ont même pas encore atteint 18 ans. Ça me fait très mal, comme son père. La mienne a d'ailleurs abandonné l'école à cause de ses militaires.
Contacté, les porte-parole de l'armée indiquent que la hiérarchie n'est pas au courant de cette situation. Mais en cas de plainte officielle, la hiérarchie militaire diligentera immédiatement une enquête et les coupables seront punis. Le colonel Mac Azukai.
Officiellement, la hiérarchie de l'armée à Beni n'est pas encore saisie de cette situation. Nos épouses, nos copines majeures d'ailleurs sont interdites de fréquenter les positions militaires. Et vous savez que l'impunité aujourd'hui dans l'armée est avérée. S'il y a des cas comme ça, les gens seront punis.
Sur place, les autorités locales indiquent que cette situation s'observe depuis 3 mois. Elles demandent aux autorités militaires d'agir pour mettre fin à cette pratique qui met en péril la vie de leurs enfants. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
La tragédie de la prison de Makala continue à défrayer la chronique. Les femmes de Lubumbashi, issues de plusieurs structures, réclament que justice soit faite en faveur des femmes détenues qui étaient victimes des viols massifs lors de la tentative d'évasion, à en croire les autorités congolaises. Une collecte de fonds en faveur de ces victimes est lancée à l'initiative de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Jean Gandou pour les détails.
Ces femmes de la société civile, auxquelles se sont joints quelques hommes qualifiés de genrés, se sont donné rendez-vous au siège de l'Assemblée provinciale pour faire leur déclaration. Et ce par ces cris qu'ils ont manifesté leur colère.
Violence faite à la femme et à la jeune fille.
Tolérance zéro! Zéro! Zéro!
Dans leur déclaration, lue par la députée provinciale Joël Moukassa, ils dénoncent les cas des viols enregistrés à la prison de Makala.
Venons exprimer notre amertume pour des actes ignobles dont le viol perpétré sur 195 femmes à la prison des Makala et l'une d'entre elles a succombé parce que violée par 10 bourreaux. Aujourd'hui encore, nous ressentons ces douleurs car nous avons à l'esprit le viol commis sur celle de la prison de Kasapa il y a quelques quelques années dans les mêmes circonstances. Nous demandons que la justice soit faite et que les auteurs de ce crime soient punis avec toute célérité.
Pour ces femmes, les victimes doivent bénéficier aussi de l'encadrement psychosocial et mises dans des conditions où pareille situation ne se répète. Pour la circonstance, une collecte en faveur de victimes a été organisée et elle va se poursuivre jusqu'au jour où une délégation quittera la ville de Lubumbashi à destination de Kinshasa, où elle rencontrera le ministre du genre afin de lui remettre leur mémo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Sans plus tarder, rendons-nous à Matadi, dans la province du Congo central. 14 cadavres des indigents abandonnés à la morgue de l'hôpital provincial de Kinkanda depuis 4 ans ont été inhumés ce dimanche au cimetière des Bokodeux. Dominique Nkodiambété, maire de la ville de Matadi, qui a pris en charge ces enterrements, déclare les avoir enterrés dans le respect de la dignité humaine avec l'avis favorable du procureur de la République. L'objectif, selon l'autorité urbaine, est de désengorger la morgue de la ville des Matadi afin d'assurer son bon fonctionnement. Nana Plurich Mambou, reportage.
À en croire Dominique Nkodiambété, maire de la ville des Matadi, dans ces lots de 14 indigents inhumés, se trouvent aussi les prisonniers et les accidentés. Ces cadavres ont été gardés à la morgue de l'hôpital provincial de Kinkanda durant 4 ans, sans qu'aucun membre de leur famille ne vienne les retirer. L'autorité urbaine affirme les avoir mis en terre dans la dignité humaine requise. Chacun a eu droit à un cercueil, une couverture, ainsi qu'à une fosse individuelle. Toutes les procédures légales qui requièrent cette opération ont été également respectées, d'autant plus que la mairie a délivré les permis d'inhumation après l'avis favorable du procureur de la République. Pour le maire de Matadi, ces inhumations étaient impératives. Dominique Nkodiambété.
Nous avons été saisis par l'hôpital général de Kinkanda. Il fallait chercher à diminuer le nombre de corps au niveau de la morgue pour permettre aussi aux gestionnaires de la morgue d'avoir des espaces pour garder d'autres corps. Alors plus de 4 ans comme ça, humanitairement, c'est pas bon aussi. Et puis sur les plans sanitaires aussi, garder des corps plus de 4 ans, ça peut amener des maladies.
Signalons que cette inhumation collective a eu lieu en présence du maire de la ville de Matadi, du commandant urbain de la police, du chef de poste de l'ANR Matadi et de plusieurs autres personnalités de la ville. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
La province du Maniema est tellement enclavée faute de bonnes routes. Le sénateur Salomon Idi Kalonda appelle les gouvernements provinciaux à privilégier les travaux des cantonnages manuels pour l'entretien des routes. Il l'a dit à Moussa Kabwankubi Moïse à l'issue des échanges qu'ils ont eus jeudi dernier au cabinet du chef de l'exécutif provincial. Pour les sénateurs, la pratique des cantonnages manuels permet de garder les routes en bon état. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Je suis en province, il était de mon devoir de venir présenter mes civilités à l'autorité de la province et de lui demander ce qu'on peut faire pour cette province finalement qui est tellement enclavée et qu'il y a deux autorités nouvelles aujourd'hui. On veut savoir aussi sa politique, qu'est-ce qu'il va faire pour cette province. Les attentes sont énormes et comme j'ai dit, moi je suis l'avocat du peuple. Il vient d'arriver, les doléances sont énormes, on attend de lui des réponses. Donne-lui le temps pour qu'il se prépare pour s'atteler réellement aux préoccupations de la population. C'est à fond propre que j'ai réhabilité cette route. Je souhaiterais que comme la saison des pluies va commencer, que la province puisse aussi regarder les cantonnages manuels. Et moi-même, je ne veux pas me laisser faire les choses parce que j'ai investi beaucoup d'argent. Je vais aussi contribuer avec les cantonnages manuels, avec l'appui du gouvernement, si ils sont prêts à les faire. Mais en tout cas, j'ai senti de la volonté du gouverneur qu'on puisse travailler ensemble pour que cette route ne soit pas perdue.
Et puis, encadrer et coacher les enfants est l'une des missions des Yoga Store, une structure créée pour encadrer les jeunes et les accompagner pour préparer leur futur. Une cérémonie de remise de brevets des mérites a eu lieu le samedi 14 septembre à Kinshasa. Ils ont fini leur formation en poterie, pâtisserie et éloquence. Une occasion pour eux de développer leurs talents cachés. Témoin de l'événement, Étienne Lissoumbou.
Tout joyeux de recevoir leur brevet des mains des formateurs, ces enfants ont exprimé leur joie. Brian, âgé de 10 ans, et Marie-Claudine sont heureux d'avoir appris à faire des gâteaux et la prise de parole en public.
Je suis allée à Yoga Store pour faire la pâtisserie, des arts.
Pour moi, je surmonte juste mes peurs en affrontant ces peurs. Donc quand j'affronte mes peurs, je peux réaliser ce que je veux.
Un parent présent dans la salle est stupéfait des réalisations des enfants.
Il y a Brian qui nous a fait un gâteau extraordinaire, c'était super. Et parlant, on découvre que les enfants sont créatifs. Ça pousse aux enfants à être plus créatifs. Il y a Christian qui nous a fait des arts plastiques magnifiques. Et ça, vraiment, j'ai apprécié.
Marie-Jo Panzou, responsable des Jeux Gastor, donne la motivation à cette activité.
Oui, il y a ces enfants-là, déjà, innés, ils ont une certaine maîtrise de quelque chose, mais sans pourtant le savoir. Alors, nous, on est là pour les accompagner, pour les aider, enfin, pas de les perfectionner comme tel, mais les accompagner, enfin, qu'ils puissent réveiller ces domaines qui se cachent en eux.
Signalons que la prochaine session est prévue au mois de juillet de l'année prochaine.
Actualité internationale.
Les habitants de la ville de Djibo, dans la province du Soum, ont manifesté encore dimanche 15 septembre pour réclamer plus de sécurité. Hommes, femmes et enfants sont descendus dans les rues en réponse à une incursion d'hommes armés dans l'un des secteurs de la ville le 13 septembre qui a fait 3 morts. Les victimes ont été décapitées par les groupes terroristes selon des sources locales. Les habitants ont alors décidé de s'installer au niveau du camp militaire de la ville.
L'invité.
Ouverture ce lundi de la session ordinaire de septembre, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Quels sont les enjeux et les priorités de cette session éminemment budgétaire? Nous recevons dans ce journal les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Le professeur Jacques Djoli est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Djoli, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifindangoy.
Les députés nationaux et les sénateurs reprennent ce lundi le chemin du Parlement. Quel est l'objet principal de cette session qui s'ouvre ce jour?
Cette session ordinaire du mois de septembre est essentiellement, mais non exclusivement, consacrée aux questions budgétaires. Nous allons recevoir la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2025. Il y aura probablement la loi rectificative et corrective de l'exécution du budget 2024. Mais en même temps, nous allons aussi avoir la loi de reddition des comptes pour l'exercice passé.
D'habitude, la population déplore une certaine léthargie qu'on constate généralement pendant la session de septembre. On a l'impression qu'après l'ouverture de la session, les députés chôment. Est-ce que vous avez tous les instruments nécessaires qui vous permettraient d'amorcer les travaux dès l'ouverture de cette session?
Oui, je crois que en termes de gouvernance parlementaire, il ne sera pas question tout simplement d'avoir un calendrier, mais il y aura un travail de programmation calendaire qui puisse saisir l'ensemble de 3 mois consacrés à la session. L'ensemble des activités parlementaires, y compris la production législative, mais aussi les contrôles parlementaires, qui sera et qui doit être effectif. L'activité parlementaire ne se limite pas aux séances plénières de l'Assemblée plénière. Le gros du travail est élaboré dans les commissions.
Mais votre chambre n'a pas encore de commission permanente. Comment comptez-vous vous y prendre?
C'est vrai qu'avec la longueur prise par la session inaugurale, nous avons eu 15 jours où nous avons pu faire d'abord l'essentiel. Mais pendant les vacances, je peux vous rassurer que le 21 groupes parlementaires sont déjà constitués et leur bureau, où nous ont déjà transmis les listes de leurs membres par commission. Et nous sommes en train de travailler pour que, dès la fin de la semaine prochaine, toutes les structures de gouvernance parlementaire puissent se mettre au travail.
La LOFIP conditionne l'examen du budget par l'examen de la loi portant reddition des comptes. Avez-vous déjà la loi portant reddition des comptes sur votre table pour amorcer cet exercice avant d'envisager l'examen du budget?
Je peux vous rassurer que la loi portant reddition des comptes est déjà sur notre table et nous sommes en contact avec la Cour des comptes pour qu'elle puisse transmettre aussi ses observations sur cette loi. Et je peux vous rassurer que pour les députés, ce ne sera pas un exercice protocolaire ou folklorique. L'examen de la reddition des comptes, tout comme les observations de la Cour des comptes, seront suivies de sanctions.
Alors, la toute dernière question, comme vous le savez, le budget déterminera les priorités du gouvernement et ses interventions durant l'année qui commence. Comment comptez-vous faire pour que votre travail au niveau du Parlement impacte directement la vie des Congolais et leurs problèmes que vous avez observés pendant les vacances parlementaires?
Il y a lieu de dire ici que le gouvernement qui est mis en place est l'émanation du Parlement. Et nous venons, n'est-ce pas, de vacances parlementaires constitutionnelles, et chacun des députés revient avec les observations qui seront synthétisées. Et c'est en fonction de ce que nous avons vécu sur le terrain que nous allons aider les gouvernements à recadrer ses priorités. La première priorité, il va de soi, c'est la restauration de l'intégrité territoriale. La question de la sécurité, de la paix, constitue pour nous, comme pour le chef de l'État, une priorité. Mais la deuxième question, c'est les réformes qui doivent être menées en termes de gouvernance institutionnelle. Il y a la question de l'économie et de la lutte contre la pauvreté. L'évaluation de rapports sur la gratuité, la couverture médicale universelle, de la mise en œuvre égalitaire du programme de développement local de 145 territoires. Mais je peux vous rassurer qu'on sent dans les réactions, dans les rapports qui nous viennent, que les députés sont déterminés à travailler pour le peuple qui les a élus.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session des nouvelles sur Radio Okapi. Alain Ngoy, la mise en onde sous l'œil vigilant de Jude Bilanda Nkumar. Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.